va maintenant repartir, et tout ça c'est lié, vous allez le voir, repartir sur le partage autour de la Sainte Cène. Pour ceux qui arrivent seulement maintenant, nous sommes dans le quatrième message, quatrième et dernier d'ailleurs, autour du thème de la Sainte Cène. On a commencé donc il y a 3 dimanches en arrière. Et vous pouvez vous procurer, si vous le souhaitez, les CD pour avoir la totalité de l'enseignement, si vous le souhaitez. Et je vous recommande tout de suite également, si vous voulez vraiment approfondir le sujet, ce livre qui s'appelle Le repas du Seigneur, écrit par un Alfred Kuhn, qui est bien connu et vraiment un livre excellent. Dimanche dernier, nous avons commencé par lire un texte. Je vais le relire parce que je voudrais poursuivre ce matin, par la grâce de Dieu, 1 Corinthiens 11. Et on va prendre le verset 17, le relire pour de nouveau, je dirais, être dans le bain de cette parole. En donnant cet avertissement, dira Paul aux Corinthiens, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Amen. Nous avons pris conscience la semaine dernière du contexte particulier de l'église de Corinthe, et particulièrement en lien avec la Sainte Cène, un contexte particulier en lien avec la Sainte Cène. En plus des différents désordres spirituels, les Corinthiens commettaient l'erreur de ne plus discerner que le pain et le vin qu'ils consommaient représentaient le corps et le sang du Seigneur. Certains étaient ivres, d'autres avaient faim. Le sacré était relégué au profane, ce qui légitimement ne pouvait qu'attirer un jugement sur les fautifs. Tout ça, on en a parlé la semaine dernière, c'est juste un résumé, hein. Nous avons compris que c'était leur manière profane de considérer le pain et le vin qui posait problème et qui attirait sur eux un jugement, et non leur état spirituel, leur condition spirituelle propre. L'Écriture dira, celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Ce petit mot ou, finalement, jette une lumière sur le texte importante. Ça voulait dire qu'ils pouvaient bien commencer et puis mal finir. Leur état et leur condition spirituelle ne pouvaient pas changer sur le temps du repas, hein. Mais par contre, la manière dont ils prenaient, dont ils considéraient le pain et le vin sur la durée du repas, elle pouvait changer. Ils pouvaient très bien commencer avec du sérieux, avec une compréhension de ce qu'ils étaient en train de faire. Et au cours du repas, puisqu'ils s'étaient pour certains alcoolisés, prendre ensuite la coupe du Seigneur à la fin du repas comme un simple alcoolique, quoi. Et là, évidemment, sans discerner que c'était un moment saint et particulier. Leur état spirituel propre ne pouvait que peu changer, comme je l'ai ici dit, et je ne vais pas me répéter là. On a également compris que ce texte de 1 Corinthiens 11, qu'on vient de lire, a bien souvent été transporté dans nos contextes d'Église, à nous, hors de son propre contexte, à lui. Vous me suivez ? On a souvent pris ce texte-là, dans un contexte très particulier de désobéissance, de profanation du sacré, on l'a transporté dans le cadre de nos églises à nous. Et ce faisant, ce qui faisait bien, ce qui prenait la Sainte Cène convenablement et correctement, de la bonne manière, quelque part, recevait quand même une sorte de réprimande et de mise en garde sévère, faisant quand même craindre la mort ou la maladie. Et de là, une certaine crispation pour les uns, au moment de la Sainte Cène, pour d'autres, la peur d'être jugé, peut-être la peur de mourir, peut-être, ont dénaturé tout cela. Ces attitudes-là et cette approche-là, finalement, ont en partie dénaturé l'approche initiale joyeuse, on en a parlé déjà précédemment, de la scène. Hein ? La scène, rappelons-le, c'est quand même une célébration de joie. Alléluia ! C'est un moment de grande victoire. Nous célébrons la victoire de Jésus-Christ sur le péché, sur la mort, et nous sommes, nous, les bénéficiaires de ça. Nous célébrons l'alliance qu'il nous donne, dans laquelle il nous inscrit, et tout ça, c'est un grand sujet de victoire et grand sujet de joie. C'est pour ça que la Bible dira « célébrer la fête avec des pains sans levain ». C'est quand même une fête. La Sainte Cène, la table, comprenons-le, c'est une fête. Donc c'est au départ fait avec joie. Mais en raison de ce texte, dans un contexte de grave désobéissance qui est plaqué régulièrement dans nos églises, hein, pas Cambrai seulement, mais dans nos églises en général de France pour sûr, d'autres pays n'ont pas, je dirais, mal vécu les choses de cette sorte-là, ont mieux compris les choses. Mais voilà, donc ça a dénaturé un petit peu l'approche au départ joyeuse de la Sainte Cène. Le pire, me semble-t-il, et c'est ça que je voulais insister la semaine dernière, c'est que cela a indirectement fait croire que Dieu nous donne accès au ciel par la grâce et qu'il nous donne accès à la table de la Sainte Cène par la loi. Vous vous souvenez de ça ? D'un côté, on prêche la grâce, on fait des Abel, prenez les enseignements si vous n'étiez pas là, et puis ici, en disant, attention, tu dois être digne, sinon tu vas mourir, tu vas tomber malade, etc. Hein, etc. Donc là, on a claqué la loi, la loi sur le cœur de tous, et c'est pas dans cet esprit-là que le Seigneur nous amène à la Sainte Cène. On est appelé à prendre la Sainte Cène dans un esprit de grâce, hein, conscient que nous ne sommes pas dignes en nous-mêmes de recevoir tout cela, mais que nous sommes rendus dignes par l'amour et la grâce du Seigneur. Cette incohérence Caïn et Abel et Caïn, cette incohérence d'approche qui peut être dans le cœur de certains, c'est pas le cœur de tous, hein, rassurez-vous, dans le cœur de certains. Moi, j'ai des frères et sœurs la semaine dernière qui m'ont dit merci, il y a un étau qui s'est desserré. J'ai grandi dans une église où on mettait la tête au carré, en résumé, c'est ça. Hein. C'est pas dit comme ça, mais c'était ça. Et là, j'ai compris que je peux vivre la Sainte Cène de manière beaucoup plus détendue et beaucoup plus joyeuse. Je suis reconnaissant. Voilà. Donc, c'est pas forcément le cas de tous, mais ça peut, bien sûr, en fonction de notre histoire, être marqué. Moi, c'est un terrain sur lequel je veux que les choses soient claires. On prêche la parole de Dieu dans un esprit de grâce, on vit la Sainte Cène dans le même esprit. Amen ? Pas autrement que comme ça. Cette incohérence doit être corrigée dans le cœur et dans la pensée de chacun. Maintenant, et là on rentre maintenant dans le nouveau, hein, pour ce matin. Maintenant, la question c'est ça. Est-ce que l'esprit de grâce par lequel nous nous approchons de la table, est-ce que cet esprit-là, l'esprit du Seigneur, un esprit de grâce et d'amour, est-ce qu'il va permettre néanmoins que nous prenions le pain et le vin, que nous le fassions dans n'importe quelle condition spirituelle ? Et là, on revient à notre état propre. Donc on a bien compris que le jugement de mort, il est lié au fait de profaner. Ça, c'est réglé. Ce n'est pas parce qu'on va prendre la Sainte Cène dans une condition spirituelle inadéquate qu'on va avoir un jugement sur nous, de mort ou de maladie. D'ailleurs, sinon, frères et sœurs, soyons honnêtes, il y aurait beaucoup de gens qui seraient morts. C'est démonstration par le contraire et l'absurde. Hein ? Voilà. Maintenant, l'esprit de grâce, l'esprit du Seigneur, ne peut pas non plus, je dirais, accepter, parce que voilà, c'est normal qu'il y ait une profonde incohérence entre ce que nous témoignons par le fait de prendre la Sainte Cène et la vie que nous menons si cette vie-là n'est pas en cohérence avec sa parole et sa volonté. Il ne faut donc pas confondre grâce, la grâce de Dieu, avec ce qu'on a déjà dit en rigolant une fois, la grâce matinée. Ce n'est pas la même chose. On ne peut pas, je dirais, d'une certaine manière, abuser de la bonté du Seigneur, abuser de son amour, et penser, prétendre peut-être pouvoir participer à ce pain et à ce vin, et en même temps avoir une vie qui, dans certains domaines précis, est à cacher. Pas possible. Certaines personnes, et c'est dans la chrétienté plus générale, ça touche plutôt le milieu catholique, mais ça a peut-être touché aussi à une époque le milieu protestant. Ce livre-là vous en dira beaucoup plus. Certains sont tombés dans l'excès inverse à l'égard de la Sainte-Seine, à savoir non pas ne pas du tout la profaner, entre guillemets, non pas voir en la Sainte-Seine quelque chose de sacré, mais ils sont allés encore beaucoup plus loin, sont allés dans une super sacralisation de la Sainte-Seine. Il y en a qui sont tombés dans l'excès de la profanation, considèrent, on s'en fout, et d'autres qui sont tombés dans une sorte d'idolâtrie, finalement, du pain et du vin, ou de l'hostie. Voilà. Ils ont trop sacralisé la Sainte-Seine, lui donnant un pouvoir, en réalité, qu'elle n'a pas. Ce pouvoir quasi magique était donc considéré comme étant capable de nous introduire par le biais des éléments, par le biais du pain et du vin, nous introduire dans la vie éternelle. Il y a un père de l'Église qui s'appelle Ignace d'Antioche, donc c'est assez tôt dans l'histoire de l'Église, qui a parlé de la Sainte-Seine de manière un petit peu magique comme un remède d'immortalité. En substance, ta vie, et peu importe ce qu'elle est, même si tu pèches gravement, prends le pain et le vin, tu seras magiquement sauvé. Parce que ce sont des éléments sains, voire extrêmement sains. Et donc, vas-y, tu peux y aller. Vas-y, et comme ça, tu seras tranquille. Je grossis les traits, hein, vous comprenez, je grossis les traits, mais les risques qui ont été associés, c'est ça. Irénée de Lyon, un autre prédicateur, a prétendu que la Sainte-Seine conférait la vie éternelle. Souvent, comprenons-le, une telle approche de la super-sacralisation, en fait, cache et cherche à cacher, à masquer, en fait, la réalité du péché dans nos cœurs et dans nos vies. À rassurer celui qui abuse de la grâce, la changeant finalement en grâce matinée, encore une fois. Vous me suivez ? C'est clair ? Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Ça, déjà. Hein ? Certains diront, oui, mais est-ce qu'il n'est pas écrit dans la Bible, là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé ? Voyons, pasteur, le Seigneur est bon quand même. Oui, mais ce texte-là ne nous dit pas que c'est une autorisation pour pécher. La grâce, elle a été justement manifestée au moment où le péché dominait sur l'humanité, et cette grâce, elle s'est révélée en Jésus-Christ. Et effectivement, là où le péché a abondé, et c'est le cas, la grâce de Dieu, elle est encore supérieure à cela. Ça veut dire que nous pouvons commettre des centaines et des centaines de fautes, voire des milliers de fautes, mais la grâce est encore supérieure, nous pouvons être graciés, nous pouvons être pardonnés. Donc la grâce, effectivement, elle est au-dessus, elle surabonde. Mais maintenant, si dans ma vie à moi, j'entretiens des fautes de toutes sortes graves, et que j'ai que faire de Dieu, et que peut-être de temps en temps, je vais faire un petit bout, un petit pardon du bout des lèvres, mais que je m'empresse de retourner à mon péché, ça ne marchera pas. Ce n'est pas une œuvre magique, l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas une œuvre, qu'il faut dénaturer. Elle demande aussi, que nous soyons, nous, responsables dans notre position par rapport à ça. Hein ? À la croix du calvaire, il y avait deux brigands. Hein ? Donc la grâce, elle a été manifestée pour l'un, qui s'est repenti, et pour l'autre, elle ne s'est pas manifestée. Donc elle est capable de sauver, de pardonner, à condition qu'on se repente. Mais s'il n'y a pas de repentance, s'il n'y a pas de désir de changer dans sa vie, évidemment, elle ne peut pas intervenir. Voilà, c'est clair. On pourrait dire, frères et sœurs, que même dans le milieu protestant et précisément calviniste, il y a une doctrine qui ressemble à ça, sur la doctrine du salut. Il y a des calvinistes qui disent et qui pensent qu'une fois qu'on est sauvé, alors on est pour toujours sauvé. Peu importe le chemin qu'on va prendre. Il y a des protestants qui pensent ça, qui pensaient ça. Comme si le salut, lui aussi, avait un pouvoir magique. Et la parole de Dieu, elle est vraiment extrêmement claire. On va prendre, je vous prie, on va prendre Apocalypse, si vous avez vos Bibles. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. Et voilà un texte qui révèle ce que le Seigneur dit à une église locale, l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Sardes. Verset 1 du chapitre 3. Voici ce que dit celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. C'est Jésus donc qui parle. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Voilà une église qui a été composée à un moment donné de plein de gens dont leur nom était inscrit dans le livre de vie, formidable, gloire à Dieu, grande victoire, et qui, entre le moment où ils ont été sauvés et puis plusieurs et le moment de cette lettre, il y en a beaucoup qui sont retournés ensuite à leur péché. Et la conséquence de cela, ça a été que dans les cieux, leur nom qui était inscrit dans le livre de vie, et je vous assure, quand ton nom est inscrit, c'est quand même un sacré avantage, ce nom-là, eh ben, il a été effacé. C'est pas pour rien que Jésus dit « Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie ». Ça veut dire qu'il a la capacité et la volonté d'effacer ceux qui viendraient effectivement à dénaturer la grâce de Dieu, à abuser de la grâce de Dieu par le témoignage d'un comportement complètement inadéquat. Frères et sœurs, quelqu'un qui se convertit, on se réjouit. Mais si cette personne ensuite vit dans l'adultère, part dans l'homosexualité, tombe dans un ensemble de péchés, vous croyez qu'elle va aller au ciel avec l'Éternel? Moi, j'ai absolument pas envie de me retrouver au ciel, on s'entend, hein, dans ces conditions-là. Le ciel, c'est pas ça. Le ciel, c'est un endroit qui est réservé pour ceux qui sont saints. Et ceux qui sont dans l'impureté, le lieu qui leur est réservé d'après la parole de Dieu, c'est la géhenne. C'est un lieu de ténèbres, de souffrance, de grands tourments. Alors, encore une fois, j'ai envie de dire, en tant que chrétiens, ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne pensons pas que nous puissions ménager le chou et la chèvre avec le Seigneur. Ne pensons pas que nous puissions être un demi-chrétien. Chrétien du dimanche et peut-être du lundi, parce qu'on a tellement... Et puis Non, Dieu n'accepte pas et n'acceptera pas, je suis clair ici avec vous, n'acceptera pas la demi-mesure. Et si dans ta vie, dans ton cœur, les choses ne sont pas claires, eh bien, tu es prévenu, tu le sais. Tu ne peux pas dire, on ne m'a pas prévenu. Mon rôle à moi, c'est de prévenir, c'est d'informer, selon ce que la parole de Dieu dit. Ta responsabilité, c'est de te positionner devant le Seigneur pour que tu sois effectivement à l'endroit que lui veut, c'est-à-dire bien inscrit sur ce livre de vie. On constate également dans ce texte des vêtements qui sont souillés, des vêtements blancs, blanchis par le sang du Seigneur au départ, qui sont ensuite malheureusement souillés. Et en préparant ce matin encore, j'avais cette pensée de 2 Pierre, chapitre 2, verset 20. Voilà ce qu'il est dit, qui confirme bien qu'une fois sauvé, toujours sauvé, c'est de la bêtise, c'est faux. L'Écriture dira ceci, « Si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. » C'est même pire qu'avant. Parce qu'ils ont connu la lumière, ils ont rejeté la lumière. C'est pire que de ne pas du tout avoir connu la lumière. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de l'avoir connue et de se détourner du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, écoutons-le. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Voilà ce qu'un chrétien, une chrétienne peut faire. Quand on en est là, frères et sœurs, dans sa propre vie, on fait comment avec la Sainte Seine? C'est une grosse question. Comment on fait avec la Sainte Seine quand on en est ici? Comment est-ce qu'on fait quand on a peut-être trop sacralisé le sacré ou profané, ce qui est plus grave? Ben, il faut rectifier le tir. Il faut se repositionner devant Dieu. Il faut mettre de l'ordre dans sa propre vie. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. C'est vous qui devez régler votre vie pour être en phase. Il y a eu, comme je le disais, un glissement de sens au IIe siècle en rapport avec la Sainte Seine. Un homme, Henri Blochet, qui est un homme vraiment réputé, connu, a dit ceci, le tournant fatal, en parlant de la Sainte Seine, on revient sur la Sainte, le tournant fatal, dit Henri Blochet, a été pris au IIe siècle. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, dans les doctrines enseignées par l'Église avec un grand E, c'est qu'on est en substance, le sacrifice de Jésus sur la croix a été remplacé par le sacrifice de Jésus dans l'Eucharistie. Et c'est pour ça qu'il y avait besoin de prêtres d'ailleurs pour faire le sacrifice. C'est-à-dire que l'Église catholique à l'époque s'est calquée sur l'Ancien Testament, les prêtres, les habits sacerdotaux, on retrouve exactement ça, même dans la construction des églises, avec la forme des églises, on retrouve la forme du temple. La lumière, à l'entrée, vous avez un bassin pour vous mettre les mains dedans, c'est exactement le temple de l'Ancien Testament. Il y avait une grosse bassine pour se laver, il y avait un autel, etc. On retrouve ce schéma-là. Et donc, ce qui a été enseigné, c'est que voilà, maintenant, le sacrifice de Jésus se fait maintenant, au moment où on prend la Sainte Seine. Ne regardez plus quelque part en substance, c'était pas dit comme ça, mais induit, probablement involontairement, ne regardez plus à la croix, mais regardez à la Sainte Seine. Et donc ça a amené le fait qu'il fallait prendre la Sainte Seine tous les jours pour être sûr d'être pardonné. Et tous les jours, on refaisait le sacrifice de Jésus et le prêtre le faisait, parce que sans prêtre, c'était même pas possible de le faire. Et même donc on se cachait, le dos à l'assemblée, et les gens devaient courber la tête pour dire « Waouh, c'est le Seigneur qui est là, qui est en train de donner sa vie, on ne peut pas regarder, etc. » On a mis ça tout en haut. Rappelons-le, frères et sœurs, la Sainte Seine, c'est un repas qui rappelle le sacrifice de Jésus à la croix, mais qui en aucun cas ne refait le sacrifice. La Bible nous dit bien qu'il est mort une seule fois. On ne va pas, à chaque fois qu'on se rassemble, refaire un sacrifice imaginaire. Une autre dérive qui s'est installée, et ceux qui veulent aller plus loin pourront prendre le livre, c'est qu'également, dans l'esprit de ces personnes-là, les éléments eux-mêmes, le pain et le vin, se sont transformés magiquement, enfin, mais sous la puissance pour eux de l'esprit, en véritable corps, chair de Christ et véritable sang. Jésus a dit, frères et sœurs, dans l'Écriture, je suis la porte. Je suis la porte. Est-ce qu'on adore une porte aujourd'hui? Est-ce qu'on dit, tiens, la porte, c'est Jésus? On dit, on se fait cingler. Jésus a parlé de lui sur je suis ceci, je suis cela. Si à chaque fois qu'il avait dit, je suis ceci, je suis cela, l'objet en question le devenait, mais on ne s'en sortirait pas. Il y aurait le Seigneur partout, dans toute votre maison. Il a dit, je suis la porte. Alors, vous avez la porte de salle de bain, c'est Jésus. La porte des... c'est Jésus. Non, non. Non, c'est symbolique. Et on connaît très bien le langage du Seigneur qui est bien souvent un langage spirituel, symbolique, et non pas, je dirais, si terre-à-terre, entre guillemets. Derrière l'impression que tout cela est très spirituel. C'est très mystique, en fait. C'est très mystique, et en même temps, c'est pas vrai. Quand Jésus a présenté à ses disciples le pain et le vin, il était lui en chair et en os. Quand il a institué le pain et le vin, il ne pouvait pas donner ce qui était en lui à ce moment-là. Quand il a dit, c'est Il bénit le pain, il dit prenez-en, ceci est mon sang. Ceci représente, d'ailleurs en araméen, parole, c'est Jésus qui parle, les spécialistes disent, il a dû dire ceci, mon corps, ceci, même pas le verbe être, au passage. Parce qu'en araméen, il n'y a pas ce verbe-là, hein, d'après les spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste, hein, mais bon. Et donc, frères et sœurs, on peut finir dans cette super sacralisation, entre guillemets, par adorer le pain et le vin au lieu d'adorer le Seigneur. Comme nous pouvons adorer la croix au lieu d'adorer le Sauveur. Les protestants, on a parlé des veaux d'or il y a déjà quelque temps. On peut décaler le lieu de notre adoration sur des objets, et en cela, on le redit, c'est de l'idolâtrie. Voilà. Il n'y a rien de spirituel dans ça. Ça te fait peut-être du bien, mais tu n'es pas dans la vérité quand tu fais ça. Voilà, c'est très important de l'entendre, et encore mieux peut-être de changer de comportement. Si nous ne sacralisons pas à l'excès les éléments, néanmoins, nous les reconnaissons comme saints, en raison de la prière qui est d'ailleurs faite sur eux. Hein. Le Seigneur dira, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il rend grâce. Il y a une bénédiction qui est là, une sainteté. Nous le reconnaissons saint en raison de la prière, en raison de, bien sûr, de ce qu'il représente, puisqu'il représente le corps et le sang du Seigneur. Et également, nous les considérons saints en raison du jugement qui est associé à leur profanation. Si tu profanes le sacré, tu risques un jugement de mort, quand même. Pour être sauvé, d'ailleurs. Si tu meurs, c'est pour que Dieu te sauve. Hein. C'est un jugement terrestre pour ne pas subir un jugement céleste. C'est écrit dans Corinthiens également. Je voudrais vous raconter rapidement une expérience que moi j'ai fait ici à, je ne sais plus, 5, 6, 6 ans, je ne pourrais plus vous dire précisément. Dans un temps de louange, comme disait Pascal, le Seigneur il vient. Moi ce que je souhaite au passage, c'est qu'il vienne, mais pour tout le monde. Hein. Que l'Église entière, je prie pour ça, hein, sachez-le, que l'Église tout entière, chacun d'entre nous, on soit inondé et visité, que ce soit une expérience commune, non pas individuelle de 2, 3, 5, 6 personnes, mais une expérience commune. La Pentecôte, c'était pour tout le monde. Hein. Donc voilà. Il y a 5, 6 ans, j'étais ici en train de louer le Seigneur, et à ce moment-là, il y avait vraiment une présence du Seigneur qui était extrêmement intense, que moi je ressentais très très fortement, à tel point que à ce moment-là, dans la louange, mon être intérieur commençait littéralement à vibrer. C'est-à-dire je tremblais de l'intérieur. Et quand ça arrive, bon, ça fait un drôle d'effet quand même. Hein. On se dit « watch », il y a une présence, une puissance de Dieu qui est là. Et on se sent sérieusement secoué. D'ailleurs, lisez bien la Bible, vous verrez que tout ce que Dieu touche, tremble. Il n'y a pas d'ailleurs pas que Dieu. Si même des anges arrivent, il y a beaucoup d'endroits dans l'Écriture, vous voyez, des hommes qui sont en contact avec une réalité spirituelle intense, ils tremblent. C'est comme s'il y a une sorte, je ne veux pas dire d'onde, mais il y a une puissance de Dieu qui est là, qui est telle que nos corps et nos êtres et nos esprits, surtout nos esprits, en sont complètement fragilisés. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ça en face de quelqu'un qui avait un gros problème spirituel du côté démoniaque. Hein. Watch. Plus de 10 ans, ça. Et quand j'étais là, j'étais donc saisi comme ça, fortement, à trembler même physiquement, parce que ça se décale sur tout le corps, saisi. J'étais très très bien, j'avais pas peur. Je savais que j'étais dans la présence du Seigneur, je savais que le Seigneur me visitait. Et en même temps, voilà, c'est tout. Et puis à un moment donné, donc ça travaille dans le cœur, ça fait une œuvre qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas d'ailleurs dire, ouais, il a fait ceci. Non, on ne sait pas. Simplement, souvent, après ce genre d'événement, il y a des choses où vous vous sentez plus libre dans un certain nombre de choses. Hein, il y a des affranchissements. Vous allez découvrir, tiens, voilà. Des gens, ils peuvent faire ça, puis du jour au lendemain, arrêter de fumer, par exemple. Un exemple que je dis. Ça peut être plein d'autres choses. C'est de la libération souvent qui se passe. Et à un moment donné, ça s'est calmé. J'ai repris un petit peu mon souffle tranquillement. J'étais content, j'étais là, etc., avec le Seigneur, avec vous tous. Et puis le service de la Sainte Cène a eu lieu pendant la louange. Et puis est arrivé le service, le pain. Et au moment où j'ai mis le pain dans ma bouche, au moment où c'est rentré, j'ai été véritablement secoué. Ça s'est calmé. Au moment où j'ai pris le vin, pareil. Pourquoi ? Parce que ce sont des choses qui sont saintes, tout simplement. Et que Dieu, derrière ça, me témoigne de sa présence de manière particulière et me témoigne aussi, au passage, évidemment, de ce que c'est que la Sainte Seine. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est saint. Maintenant, je ferme la parenthèse sur cette expérience, maintenant, les choses saintes, comprenons-le, ne s'accommodent pas et ne s'accommoderont jamais avec le péché. La grâce, oui, mais pas la grâce matinée. D'accord ? En participant à la Sainte Seine, tu déclares que Jésus est mort sur la croix. Tu déclares que son sang est bel et bien, s'est bel et bien séparé de son corps pour une victoire totale sur le péché. Une victoire qui touche à la condamnation qui est induite par le péché, c'est-à-dire je ne suis plus condamné, je suis pardonné de mes péchés, mais une victoire également sur la puissance du péché, sur la domination du péché. Le sang t'assure le pardon, le corps brisé du Seigneur t'assure la victoire sur la domination, la puissance du péché dans ta vie. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture dira « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Nous aussi, frères et sœurs, nous y passons à la croix. Paul dira « J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Ça veut dire qu'à la croix, Jésus a donné son corps, le pain ici qui représente le corps et le sang. Le sang, c'est l'agent purificateur de mes péchés. Et rien d'autre que ça. Je n'ai même pas besoin de l'adorer d'ailleurs, ce sang-là. C'est le sang, le Seigneur qu'on adore. Et le corps brisé, c'est là où moi j'ai ma victoire sur la puissance du péché. Parce qu'avec Jésus-Christ, j'ai aussi été crucifié. Notre ancienne vie, elle est sur la croix, frères et sœurs. Quand tu regardes ta vie passée, elle se situe là, t'es mort. Hein. Le vieil homme, il est mort, d'après la pensée biblique. Et on doit s'associer, nous, à cette réalité-là. Ça veut dire que quand le diable vient pour, ou toi-même dans ton cœur, t'as des tentations, tu dis, mais moi, c'est fini tout ça. Moi, je suis mort. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Ne me parle plus de tout ça. Ça ne m'intéresse plus. Et c'est en ça que le travail de Dieu va permettre que progressivement, hein, ce n'est pas du jour au lendemain, mais progressivement, on va être libérés les uns les autres de la puissance du péché qui domine. Et au fur et à mesure, on va effectivement crucifier la chair avec ses passions et ses désirs, ce qui veut dire que si tu marches avec le Seigneur, les tentations que tu as eues il y a 10 ans, normalement, tu ne les as plus aujourd'hui. Parce que l'œuvre de l'Esprit consiste à te libérer de la chair et de son pouvoir et de ses passions. Allô ? Hein ? Eh oui. En participant à la Sainte Seine, tu déclares être entré dans cette alliance spirituelle avec Dieu, alliance faite de grâce et de sainteté. Tu en reçois les avantages et tu en respectes aussi les conditions. Et tu renouvelles, au moment de la Sainte Seine, cette alliance. En participant à la Sainte Seine, tu annonces aussi le retour du Seigneur et tu indiques par là ton attente impatiente à l'égard du Seigneur et de son royaume. Maranatha, viens Seigneur, viens, comme on le disait la semaine dernière. En participant à la Sainte Seine, tu indiques que tu fais partie du corps de Christ, Église de Jésus-Christ, et que cela te lie aux autres chrétiens dans un lien d'amour qu'il faut bien sûr aussi respecter. Ce n'était pas malheureusement du tout le cas des Corinthiens, et en cela ils péchaient aussi gravement. Ce n'est pas pour ça qu'ils ont été jugés, mais néanmoins, en agissant comme ça, ils agissaient mal. Ils ne se respectaient pas les uns les autres, vous connaissez le texte. Ils mangeaient, ils ne s'attendaient pas, certains crevaient la dalle, et puis voilà. Il n'y avait pas de communion, pas de relation du tout. Pour finir, en participant à la Sainte Seine, tu accueilles spirituellement dans ton cœur le Seigneur lui-même, qui est esprit. En raison du sens donné à la Sainte Seine, il n'est pas possible de s'en approcher donc à la légère. J'ai envie de dire sans un examen de conscience adapté. C'est pas vrai. Jésus, d'ailleurs, avant d'avoir institué la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il va faire avec ses disciples? Qu'est-ce qu'il fait juste avant la Sainte Seine, au repas? Hein? Il lave les pieds des disciples. Dans Jean, on va le lire, dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples. Acte symbolique, hein. Et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras pas de part avec moi. » On est dans le spirituel, là. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, encore langage spirituel, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Avant l'institution de la Sainte Cène, Jésus s'occupe de laver le cœur des disciples. Pas les pieds, hein. Les pieds bien sûr, mais surtout le cœur. Et c'est un lavement qui est finalement simple. Là, effectivement, il lave les pieds. Ça veut dire qu'on a besoin effectivement que le Seigneur s'occupe de nous. On ne peut pas venir à la Sainte Cène sans qu'il y ait au moins une partie, Seigneur, on vient vers toi, Seigneur, je te demande pardon. Mes pieds sont sales parce que je suis sur terre. Hein, j'ai pas fait des, je suis pas comme Judas, avoir fait des sales coups là. Mais Seigneur, voilà, hein, je suis un homme, un bonhomme, une bonne femme. J'ai pas, voilà. Donc Seigneur, lave-moi les pieds, s'il te plaît. Et là, on se fait laver les pieds. Et là, on est en mesure de prendre la Sainte Cène. Amen. Il y a un problème pour Judas, hein, vous constatez. Judas, il est dans une situation délicate. Il n'est pas, envie de dire, pur. Mince. 12 disciples, 12 apôtres, des apôtres. Et parmi les 12 apôtres, il y en a un qui n'est pas pur. Ça, c'est l'Église. On est combien ? 120 ? Sur les 120, si on fait la proportion avec Judas, 12 ? Pas pur ? Oh là là, combien, Seigneur ? Et là, on doit examiner sa vie, sérieusement. Et on doit se dire, mais Seigneur, moi j'en suis où là? Je suis dans quel état spirituel? Et on a intérêt de prendre du temps pour ça. Et pas, je dirais, aller à la va-vite. On doit faire attention à cela. Parce que sans être nécessairement un Judas, on le comprend, on peut être des pierres à certains moments qui vont renier le Seigneur, qui vont faire des erreurs, voilà, des graves erreurs parfois. Ça peut nous arriver. Et il est nécessaire dans ce cas-là de simplement s'amender devant le Seigneur. Un texte biblique encore, je vous prends du temps aujourd'hui, je me permets, je vous amène dans la barque. Hein. Je vous contrains, vous avez le droit de partir. Mais voilà, ça ne va pas finir non plus trop tard hein, quand même, mais un peu plus tard que d'habitude. Et on ne veut pas rendre ça, je dirais, systématique, mais bon, voilà. Moi, ça fait un paquet d'années, on en parlait tout à l'heure en priant. Derrière moi, ça fait un paquet d'années, j'ai plus de montre. Hein. C'est fini. Un jour, le Seigneur m'a dit, ta montre est arrêtée. Je priais pour être libéré de la montre. Vous allez me dire, et cinglé le pasteur. Hein. Et un jour, comme ça, le Saint-Esprit me dit, ta montre est arrêtée. Je regarde, ma montre était arrêtée. À ce moment-là, j'ai enlevé la montre, j'ai dit, ça y est, Seigneur, c'est fini, je ne mets plus de montre. Et depuis ce jour-là, ça fait beaucoup d'années, je n'ai plus de montre. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'horaire, mais j'ai plus de montre. Voilà, ça veut dire que quand il faut rester un peu plus longtemps, je reste un peu plus longtemps, et puis point à la ligne. Et tout va très bien, Madame la Marquise. Hein ? Job chapitre 1, versets 1 à 5. Écoutez bien ce texte, parce que c'est un texte de l'Ancien Testament. C'est la discipline spirituelle d'un homme de l'Ancienne Alliance qui nous indique à nous le chemin. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânes et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient à tour un festin. et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, un sacrifice. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job, il n'était pas sûr que ses fils avaient péché, mais par sécurité, après le repas de fête, vous venez ici, sanctifiez-vous là, mettez-vous à part. Et puis, peut-être, se disait-il, peut-être qu'ils ont péché, pas dans leurs actions, pas dans leurs paroles, peut-être qu'ils ont péché dans leur cœur. Le souci de Job à l'égard de ses fils, c'est pas le péché, le gros, le grave, le voyant. C'est celui qui est dans le cœur. Et ça, il prenait le temps nécessaire pour que les choses soient toujours au clair devant Dieu, parce que son souci, c'était bien évidemment de plaire à Dieu et d'être en règle avec Dieu. Et son souci, c'était que ses fils aussi le soient. Moi, je crois, frères et sœurs, que Jésus joue ce rôle-là. La Sainte Cène qui nous a donné là, à nous instituer, c'est ce temps-là qui nous est donné à chaque fois. Qui dit, vous êtes mes enfants, sanctifiez vos cœurs, réfléchissez à vos vies et sanctifiez-vous, mettez-vous de côté, regardez si dans votre cœur il n'y a pas quelque chose qui s'est élevé contre Dieu, même un petit truc, et puis ensuite alors vous pouvez participer. Job, l'Ancien Testament, il faisait la fête en premier et après il se sanctifiait. Nous, ce qu'on doit faire, c'est l'inverse. On doit se sanctifier en premier et ensuite participer à la fête de la grâce de Dieu, à la fête du pardon, à la fête de la libération. Amen. Ça, c'est ce que Dieu veut que nous fassions. N'ayons pas peur d'examiner notre cœur en profondeur. Nous n'en serons que beaucoup plus gagnants. La fête en sera d'autant plus belle et libératrice. N'ayons pas peur de nous ouvrir et de sonder notre cœur et de permettre à Dieu d'aller peut-être là où il faut qu'il aille. Laissons-lui du temps pour cela. D'accord ? Ouvrons notre cœur. Prenons le temps qu'il faut. Ne passons pas trop rapidement. Permettons au Saint-Esprit de sonder notre cœur et de mettre à la lumière dans nos vies tout ce qui ne lui plaît pas à lui. Non ? C'est quand même ça. Acceptons cela. Ça vous embête ce que je vous dis ? Si ça vous embête, j'ai dit si ça vous embête, sondez votre cœur. Pourquoi de la résistance ? Pourquoi de la résistance ? Sondez votre cœur. Le poulet est en train de griller. Mon mari ne va pas être content. Je ne pourrai pas aller à la brocante cet après-midi. Mais est-ce que c'est grave, tout ça ? Je sais pas. C'est grave ou pas ? Ben, tant mieux, hein. Ce matin, je suis venu à l'église. Il y avait un monde fou sur Neuville-Saint-Rémy, mais un monde fou. Jamais vu autant de monde là-bas. Et je me suis dit, Seigneur, purée. Tous ces gens qui viennent, qui se déplacent un dimanche matin à 6 heures pour aller vendre, acheter, comme on voit dans la Bible. Ils ne savent pas les heures qui arrivent, hein. Je dis, Seigneur, fais quelque chose, parce que les gens, ils ont du temps, ils ont de la disponibilité, mais ils se plantent d'endroit. Hein. Plutôt que d'aller à la brocante pour aller récupérer la dernière horloge qui ne va peut-être pas marcher bien longtemps, ils passent à côté de ce que Dieu veut pour eux. Mais prions pour que... Moi, j'ai dit, Seigneur, le lieu de parking, c'est ici, hein, pour les gens. Ça doit changer. Amen. Et pour que ça change, frères et sœurs, il faut que l'Église aussi, elle change, qu'elle avance, qu'elle évolue. Quand l'examen a eu lieu dans notre vie et que ça a donné lieu justement à un esprit de repentance et où on dit pardon au Seigneur de tout ce qui convient de demander au pardon, alors là on est en position pour prendre la Sainte Cène. Là on peut la prendre. Un texte de 1643 dit ceci. Quand l'adversaire, le diable, essaie de vous détourner de la communion par le sentiment de votre indignité, que votre seule préoccupation soit de croire. Voilà comment vous demeurerez et vous serez tout à fait digne. C'est la foi qui rend digne après l'examen de conscience. Luther, grand réformateur, a dit ceci. Quand donc nous sentons en nous un ferme déplaisir et la haine de tous nos vices procédant de la crainte de Dieu et le désir de bien vivre afin de plaire à notre Seigneur, nous sommes capables de participer à la scène malgré les restes de faiblesse que nous portons en notre chair. Car si nous disons, pour nous exempter de venir à la scène, que nous sommes encore imparfaits en la foi ou en intégrité de vie, c'est comme si un homme s'excusait de ne pas prendre de remède parce qu'il est malade. Vous comprenez ? C'est clair ? On s'examine, on demande pardon, et donc on prend dans la foi et dans la grâce. Maintenant, si nous refusons l'examen à cause de notre péché caché, ou même parfois connu, si nous ne nous repentons pas et nous ne voulons pas fournir d'efforts pour plaire à Dieu, que faut-il faire ? Prendre ou ne pas prendre la Sainte Cène ? C'est une mauvaise question, en réalité. Si ta situation à toi n'est volontairement pas réglée et que tu ne fais aucun effort pour ça, que tu ne cherches pas à plaire à Dieu, la question prendre ou pas prendre, quelque part, n'a pas beaucoup de sens. Je vous donne l'exemple d'un homme et d'une femme qui sont mariés, qui ont une alliance. Je vais avoir du mal à l'enlever d'ailleurs. Elle est là. Imaginez un homme qui est dans l'adultère et qui dit à sa femme, je garde ma maîtresse, mais je renouvelle quand même mon alliance avec toi. Je ne suis pas sûr que la femme soit très 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 heureuse, hein. La polygamie, c'est pas pour maintenant. On la veut pas d'ailleurs. Idem pour une femme, hein. On comprend ça. Je garde mon péché, Seigneur, mais je renouvelle mon alliance envers toi. De pardon, de libération, mais je continue quand même, hein. Prendre la Sainte Cène dans un cas pareil, vous conviendrez avec moi, n'a aucun sens. C'est même, je dirais, de l'hypocrisie. Et je pense qu'en faisant ça, on rajoute à ces péchés encore un autre péché. Et à mon avis, il est préférable de s'en abstenir. Maintenant, si tu dis à ta femme, j'enlève mon alliance, je suis, c'est vrai, adultère, mais je veux le rester. Donc, j'enlève mon alliance. Pour autant, tu es encore marié à ce moment-là. Pour autant, à ce moment-là, tu es normalement encore uni. Et il y a donc des gens qui disent, bah, Seigneur, non, moi je ne prends pas la Sainte Cène, parce que j'ai commis un grave péché. Alors si tu te repens de cela, tu peux la prendre, mais si tu ne te repens pas et tu ne changes pas, eh bien, si tu ne la prends pas, j'ai envie de dire, c'est pas ça qui va régler ton problème. En substance, que tu la prennes ou que tu ne la prennes pas, ça n'a pas grande importance au final. Parce que ce qui est important, c'est ton état spirituel du moment. C'est ça qui doit se régler. Le reste, j'ai envie de dire, viendra après. La prendre sans régler ses problèmes, eh bien, c'est quelque part déclarer que tu es sous le jugement de Dieu. Si tu ne participes pas à la grâce de Dieu, ça veut dire que tu en acceptes clairement son jugement. C'est une manière de dire, Seigneur, je ne prends pas. Eh bien, voilà, je me déclare hors de ton royaume, retiré de ta grâce. Je déclare que mon nom est effacé du livre de vie. Voilà ce que ça veut dire. Et donc Jésus, quand il nous met la Sainte Cène en face de nos vies à nous, il nous met dans un sacré problème. Que tu la prennes ou que tu ne la prennes pas, si tu n'es pas en règle dans les deux cas, ça ne marche pas. Et surtout, n'allons pas croire que parce qu'on ne prend pas la Sainte Cène, on fait plaisir au Seigneur. Ne pensons surtout pas qu'en ne la prenant pas, on honore le Seigneur. Eh non ! Non ! Rien de tout ça. L'important, au final, donc, c'est d'être cohérent soi-même avec le Seigneur. Et je termine ici avec une parole prophétique qui a été donnée il y a 2 ans et demi de cela, à peu près, peut-être un petit peu plus même, le 14 février 2010. Et cette parole m'est revenue à l'esprit assez clairement. Et voilà ce qui a été dit. Alors je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, il y a 2 ans et demi, on a connu, peut-être même ceux qui étaient là s'en rappellent que peu, on a connu un temps de repentance, 31 janvier 2010. Et ensuite, on a eu un temps, même un jeûne et prière d'humiliation. Et pendant à peu près un mois, on a connu un temps de repentance dans l'Église, je dirais, collective. Et moi-même, je prêchais sur Amos à cette époque-là, et ce dimanche-là, certains vont s'en rappeler, parce que ça, c'était marquant, je vous ai dit que quand Dieu dit stop, à un moment donné, il atteint les signes de la grâce. Vous souvenez de ça ? C'est-à-dire qu'il y avait cette histoire de l'Église, je crois, luthérienne ou méthodiste, je ne sais plus, qui avait fait un vote en faveur de l'homosexualité. Et il y a une grande tornade qui est venue dans le quart d'heure qui a suivi, et la croix, symbole de grâce, tombée. Et dans Amos, le prophète brise l'autel, le lieu du pardon, brisé. Je vous annonçais ça, vous vous rappelez de ça ? Pas tous les jours qu'on parle sur ça, hein, frères et sœurs. Hein. Moi, je n'ai pas envie de passer mon temps, au passage, à dire ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Il faut qu'on aille plus loin, hein. Il faut arrêter de régler les comptes. Allô ? Parce que c'est pas marrant. Franchement, moi, j'ai pas envie de passer mon temps à ça. Donc, il faut qu'on avance. Et ce jour-là, le jour où je prêchais cela, que Dieu atteint au signe de sa grâce, c'est quand même pas rien, il y a un frère qui n'est pas là aujourd'hui, qui a rejoint une église plus près de chez lui, qui a dit ceci à l'église, prophétique, parole prophétique reçue le 31 janvier, le jour où je vous ai fait écouter le cri que j'avais reçu à Roubaix pour ceux qui étaient là. Vous vous souvenez de ça ? Ensuite, il y avait eu un temps de repentance. Voilà. Pour ceux qui arrivent, vous êtes en train de prendre le train en marche, soyez bénis au milieu de nous. Hein ? Voilà. Là, il y a eu un temps de repentance fort. Et ce frère a reçu cette parole ce jour-là. Il l'a donnée le jour, donc le 14 février, donc du genre 15 jours plus tard, le jour où je prêchais cette parole de « Dieu porte atteinte au signe de sa grâce ». La repentance, dira-t-il, de la part du Seigneur, n'est pas une option. C'est un dû envers le Seigneur. Il a payé très cher le prix de la grâce à la croix. Cette grâce nous a été accordée non pour vivre comme chacun l'entend, mais pour venir ou revenir à lui et lui consacrer nos vies. C'est pour cela qu'il y a un temps de grâce. Les yeux de l'Éternel sondent la terre, l'Église et les vies. Il voit ce que nous faisons dans le secret. Le temps vient et il est proche, où la grâce sera ôtée de la maison. Il cite un texte, « Je prendrai ma houlette grâce et je la briserai, dit le Seigneur. Je briserai aussi ma houlette unité, et je séparerai ceux qui me craignent, qui tremblent à ma parole, de ceux qui commettent l'adultère spirituel. Je retrancherai ceux qui auront abusé de ma grâce pour suivre leur propre voie en disant, Dieu bénit. Que celui qui se souille continue de se souiller et celui qui se purifie de se purifier. Bientôt, l'agneau laissera place au lion rugissant. C'est un avertissement solennel pour que le peuple se consacre au service de son Dieu. C'est le temps vraiment favorable. Je crois que ce temps, frères et sœurs, est arrivé. Vous savez, moi j'ai eu un bouton sur le nez cette semaine, un gros bouton. Et ça m'a fait un truc tout rouge. Quand je me regarde dans la classe, j'ai l'impression de voir un clown. Frères et sœurs, vous pouvez prendre les serviteurs de Dieu pour des clowns. Vous pouvez prendre l'église pour une église de clowns. Vos frères et sœurs pour des clowns. Vous pouvez faire tout ça. Ça, c'est OK. Mais Dieu, on ne peut pas faire ça. Et quand Dieu dit stop, frères et sœurs, je crois fermement qu'il dit stop. Et le temps pour nous, ce n'est pas le temps des réjouissances. Le temps pour nous, c'est le temps de la repentance. Le temps de la repentance. Et j'ai envie de dire une bonne fois pour toutes. Il y a 2 ans et demi, on a vécu quelque chose. Je vous assure, je n'ai pas compris pourquoi ça s'est arrêté. Le Seigneur a laissé du temps. Mais maintenant, je crois que le temps est venu où le Seigneur ne nous laisse plus le choix. Ne nous laisse plus le choix. Content, pas content, moi j'y peux rien. Hein. C'est sérieux. Le Seigneur, il ne veut pas une demi-église à demi consacrée. Il veut des cœurs entiers, saints. Normal. On chante depuis ce matin et c'est magnifique les chants. Viens transformer ma vie. Sois le roi sois le roi et prends la place qui te revient. Et ben le Seigneur, il le fait. Il le fait. Mais la pression, elle va venir sur chacun de nos cœurs. Soit on l'accepte, soit on la refuse. Si on la refuse, frères et sœurs, ben voilà, hein. On a le droit, hein. On est libre. Ça pose des choix, tout ça. Sérieux. Ça pose des choix sérieux. Voilà. Non, pas de bravo, non. C'est gentil, Sabine, pour l'encouragement, mais mais bien sûr, c'est pas le moment, et c'est pas de toutes les manières en soi à faire, peu importe. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous avoue sincèrement, je sais pas du tout ma façon de penser, ma façon de faire. C'est pas pour vous faire gagner du temps, mais je vous propose quelque chose. On ne va pas aujourd'hui prendre la Sainte Cène. Pendant la semaine qui est devant nous, nous allons méditer sur ce que nous avons entendu et nous allons placer nos vies sous le regard de Dieu. Vous savez que dans l'ancien temps, pour prendre la Sainte Cène, les gens passaient plusieurs jours d'examen spirituel. Et le pasteur ensuite allait les voir et vérifier qu'ils avaient bien fait ce temps d'examen et vérifier qu'ils étaient prêts. Et à ce moment-là, il leur donnait une petite sorte de petite pièce en métal. Je ne me rappelle plus du nom, c'est écrit dans le livre. Et alors ensuite, quand ils arrivaient à l'église plusieurs jours plus tard, ils apportaient cette petite pièce et ils disaient, moi je peux prendre la Sainte Cène. Ah, c'en était à ce point-là. N'oublions pas, frères et sœurs, que nos prédécesseurs dans la foi étaient beaucoup plus engagés que ce que nous le sommes aujourd'hui. Que le niveau de sainteté et d'exigence était bien plus élevé que ce que nous connaissons aujourd'hui. Nous, on dit, la génération, ça change. Hein. Imaginez ça sur 200 ou 300 ans. Toutes les générations qui changent, qui se dégradent. Aujourd'hui, frères et sœurs, on a un sacré retour à faire vers le Seigneur. On est appelé à la repentance. Nous, ici, à Cambrai, mais sachez-le, toute la nation de France et toutes les églises de France, la Fédération Baptiste est appelée à la repentance. Vous vous souvenez de ce cri partagé ? Dieu dépose un appel criant, terrible, terrifiant à la repentance. Moi, je l'ai ressenti, je peux vous dire, c'est terrible. Terrible. Le fossé qu'il y a entre Dieu et cette fédération dont je fais partie, il est terrible. On était à une pastorale en mars 2010, j'en parlais hier, au CNEF. Grande pastorale. Souvenez-vous, je voulais partager une vision. La France, enfin une vallée en haut, en bas, de droite et de gauche. Souvenez-vous de cela. Et le Seigneur me montrait, il n'y a pas assez d'eau. Et le lendemain, un prophète vient et dit, il y a une vallée, nord, sud, est, ouest, 500 pasteurs, frères et sœurs. Voilà ce que je vais faire. Il y avait des os qui ont été rassemblés de part et d'autre. Dieu rassemble son peuple, les rassemble, met de la chair sur eux, selon Ézéchiel 36, fait d'eux une armée, et à ce moment-là, cette armée, que fait-elle? Elle se met à pleurer. De repentance. Et cet homme prophétisé, ils avaient de l'eau jusqu'à 10-15 cm au niveau des mollets. Et moi, le Seigneur m'avait parlé avant, il m'avait dit, il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas assez de repentance. Alors, on doit se repentir. Vous savez, si tout ça c'est vrai pour tous les autres, c'est surtout vrai aussi pour nous. Et si Dieu dépose ces choses dans notre cœur, c'est pour que l'église de Cambrai peut-être soit porteuse d'un message. Parce que ce n'est pas un bonhomme qui va tout faire. Hein. Dieu va déposer sur vos cœurs un feu. Pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent. Et je prie que l'Esprit de Dieu répande sur nous un esprit profond de repentance et d'humiliation. Et que ça ne nous lâche pas tant qu'on n'a pas la bénédiction du Seigneur. Ça vous va ? Alors on se donne une semaine. Priez chez vous, sanctifiez-vous, comme Job leur a demandé à ses fils, sanctifiez-vous. Et la semaine prochaine, c'était la campagne, ça sera la campagne. Semaine prochaine, on laissera notre frère prêcher et on prendra la Sainte Cène. C'était pas prévu la semaine prochaine de la faire, on la fait la semaine prochaine. Mais cette semaine, on la fait pas. Ça nous donne du temps. On va pas à la va-vite. Examine ton cœur, sonde ta vie. Sérieusement devant Dieu. Amen. Voilà. On va prier un instant. On va peut-être chanter pour terminer ce cœur. Purifie mon cœur. Que ce soit une parole d'envoi pour toi ce matin. Une parole d'envoi dans ton cœur. Que ce chant résonne sur toi. Purifie mon cœur.